Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous allons ouvrir ce colloque avec le mot introductif du président de l'Université de Caen, Pierre Denise, à qui je donne immédiatement la parole.
Merci. Monsieur le recteur de région académique, l'Académie de Caen, monsieur le président de la conférence des présidents d'université, camarades présidentes, présidents, vice-présidentes et vice-présidents d'université et de commu aussi, il faut avoir l'esprit large, mesdames, messieurs, chers collègues. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui, teinté d'un petit peu de tristesse, pour ce colloque de la CPU consacré de manière large citoyenneté et numérique. Alors cet événement, ici et maintenant, a une résonance particulière pour l'établissement que je représente, et pour trois raisons. Alors la première, c'est que c'est un colloque qui est organisé en l'hommage de Pierre Dessineux, mon prédécesseur, disparu en tout début d'année de manière prématurée. Et c'est lui, bien entendu, qui aurait dû être à ma place pour vous accueillir aujourd'hui. Alors, Pierre Dessineux avait organisé en mai 2015, au colloque CPU annuel, un atelier consacré à des thèmes qui lui étaient chers, citoyenneté, numérique, éducation, recherche. Et le succès de cet atelier avait conduit à l'idée de ce colloque, c'est-à-dire parler une journée entière sur ces thèmes pour avoir le temps d'élaborer, de discuter, de faire des productions. Donc je remercie tout particulièrement la CPU et son président d'avoir poursuivi l'idée et organisé aujourd'hui ce colloque ici. La deuxième raison, c'est que l'Université de Caen a une longue tradition de mélanger, on va dire, des thèmes de sciences dures et de SHS. Et donc un colloque qui tourne autour de numérique, citoyenneté, éducation, a une résonance particulière pour notre établissement. Il n'est pas anodin de noter que Pierre Dessineux était un professeur d'histoire grecque, émérite, et que pourtant il était très intéressé par tout ce qui était numérique. Donc il a beaucoup fait pour développer et soutenir le centre d'enseignement multimédia, qui s'est concrétisé, y compris dans le bâti, si je puis dire, pour améliorer tout ce qui pouvait être numérique au service, en particulier de la pédagogie. La troisième raison pour laquelle cet événement a une résonance particulière, c'est d'ordre symbolique. Donc vous me pardonnerez un parallélisme peut-être où vous trouvez déplacé. Pierre Dessineux donc est décédé le 4 février, donc il y a moins de 10 mois. Et aujourd'hui, on a ce colloque organisé ici, donc une université, malgré le traumatisme que cette disparition a représenté, qui fonctionne de manière normale, consciente de son rôle de service public. Alors notre université a connu, notre vieille université, puisque elle a été créée au 15e siècle, a connu beaucoup de traumatismes de ce genre. Et cet amphithéâtre est assez symbolique de ce genre de traumatisme. L'université a été complètement détruite lors des terribles combats de l'été 44. Et l'année prochaine, nous fêterons les 60 ans de sa reconstruction. Et cette reconstruction a été rendue possible grâce au recteur de l'époque, qui s'appelle Pierre Dor, dont la mémoire a été honorée par cet amphithéâtre. Donc un parallélisme entre le traumatisme que nous avons vécu cette année et puis les traumatismes antérieurs que l'université a surmonté avec succès. Alors, je ne parlerai pas du contenu de ce colloque, d'autres le feront après moi de manière beaucoup plus savante, érudite et pertinente. Donc je voulais simplement terminer pour remercier une nouvelle fois la CPU d'avoir organisé ce colloque ici. Je remercie également les intervenants, les personnes présentes. Votre présence ici à vous tous on le prend pour un hommage particulier pour notre président malheureusement décédé de manière prématurée. Donc je souhaite que cette journée soit fructueuse en échanges, en idées et en perspectives. Je vous remercie.
Et à présent, la parole est à Jean-Louis Salzmann, président de la conférence des présidents d'université, pour l'ouverture du colloque.
Merci Jean-François. Donc, monsieur le recteur, cher Pierre, mesdames et messieurs les présidentes et les présidents, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, voilà, ça fait... bizarre de se retrouver dans cet amphithéâtre, puisque la dernière fois que j'y étais, c'était une cérémonie en l'hommage de Pierre Sineux, qui nous a quittés de façon extraordinairement brutale, hein, puisque quelques jours avant, c'est de la palisse, hein, mais quelques jours avant, il était en pleine forme, il était avec nous, il était à la CPU, justement, il était dans la préparation de ce colloque d'aujourd'hui, et s'apercevoir comme ça, que, ben voilà, se rendre compte en fait de ce que l'on est, de l'évanescence de la vie, de la futilité de beaucoup de choses. Et il s'est trouvé que, je crois que c'était le lendemain de sa mort, on était tous à l'Élysée pour le dîner offert par le président de la République. Évidemment, le président de la République a rendu un hommage particulièrement émouvant à Pierre Sineux. Et je pense qu'on était tous très, très, très mal. Et on est tous encore très, très, très mal quand on y repense. Et vraiment, c'est très émouvant. Moi, je ne peux pas cacher mon émotion parce que Pierre était un type extrêmement sympathique, très, très ouvert, très... Comme tu l'as dit, c'était un spécialiste des sciences de l'homme et de la société, et pourtant très ancré dans la modernité, très ancré dans le numérique. Et ce colloque, voilà, c'était son œuvre. Mais il avait déjà commencé à notre colloque de Strasbourg, hein, puisqu'il avait tenu une table ronde, et vraiment, bon, ce qu'on appelle communément les humanités numériques, c'était vraiment tout son... c'était ce qu'il voulait faire. Et donc, ce colloque aujourd'hui sur la citoyenneté, le numérique, comment le numérique transforme notre vie, bon, c'est un truisme de le dire, évidemment. Comment ça va transformer les relations sociales, comment ça va transformer la citoyenneté, et comment l'université doit répondre à cela par une meilleure éducation et par... une meilleure prise en compte des transformations que le numérique induit. Alors, je lisais l'autre jour dans le journal Le Monde, en fait, qu'il y avait maintenant des petits logiciels, enfin des gros logiciels, qui portaient des prénoms d'ailleurs, pour les rendre plus humains, et qui faisaient le travail de jurisprudence des cabinets d'avocats. Et donc, avec toujours derrière, voilà, ils vont prendre notre travail. Hein, donc, un peu, l'ordinateur, c'est un peu l'émigré du monde moderne. Hein, c'est celui qui va prendre le travail intelligent après que la machine ait pris le travail de force de l'être humain. Alors, quand la machine a pris le travail de force, évidemment, ça a ôté... une part de pénibilité du travail, mais ça a retiré du travail à beaucoup de gens. Et la grande crainte, évidemment, c'est que le numérique retire le travail à beaucoup de gens. Mais l'informatique, le numérique, c'est supprimer les tâches fastidieuses et répétitives, même si elle en crée d'autres tâches fastidieuses et répétitives. Et donc... quelque part, de la même manière que le travail physique est presque disparu des sociétés modernes, une partie des travaux de compilation, de scribouillardise vont disparaître. Et on peut espérer que ce seront des tâches à plus haute valeur ajoutée qui resteront. D'où l'importance, monsieur le recteur, que l'État investisse dans la formation, dans l'élévation continue du niveau de formation, puisque de plus en plus de tâches, après les tâches manuelles, de tâches de bas niveau de qualification vont disparaître les unes après les autres. On a vu les révolutions successives du numérique arriver dans les services, hein, dans les banques, dans les cabinets d'experts comptables. Donc une bonne partie des tâches ont disparu et une bonne partie des tâches vont disparaître. Et d'ailleurs, les universités qui forment en formation initiale, en formation continue, sont constamment sollicitées par ces branches entières qui leur disent, voilà, on a des milliers, des dizaines de milliers de personnes à reformer pour qu'on soit toujours compétitif. Donc, la révolution, entre guillemets, numérique va être quelque chose qui va impacter non seulement nos sociétés, mais aussi nos modes d'apprentissage. Alors, c'est devenu une tarte à la crème, hein, la classe inversée, dans l'amphi, tout le monde avait son petit ordinateur et puis est capable de dire à l'enseignant « Non, mais votre référence est plus bonne, etc. » Bon. Et puis, tout le monde a peur des MOOC et se dit, voilà, à quoi ça sert un grand amphi comme celui-là si tout le monde peut travailler chez soi avec son ordinateur. Je pense que c'est une mauvaise référence, personnellement. De la même manière que le cinéma n'a pas tué le théâtre, hein, je le disais à la journée des DGS, de la même manière que le MP3 n'a pas tué le concert en salle, les MOOC, le numérique, ne tuera pas la relation humaine. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait des visioconférences, qu'il y ait des moyens modernes de communication, voilà, les êtres humains ont besoin de se retrouver ensemble parce qu'il y a des choses qui passent différemment. Par la présence physique. Et le rôle de mentor, hein, j'utilise ce terme puisque c'est le terme consacré, mais c'est aussi évidemment la référence à Pierre Sineux. Le mentor et le mentorat sont toujours d'actualité et la relation humaine est très importante. On avait un colloque à la CPU sur apprendre au XXIe siècle et c'est sûr que la relation physique, la relation intellectuelle, le rôle de leader ou d'initiateur ou de l'enseignant et la composante émotionnelle que l'enseignant apporte à son enseignement restent et sont des éléments essentiels pour que la connaissance, la culture, le raisonnement rentrent plus profondément dans l'esprit humain. Alors, le numérique, c'est aussi le développement fantastique de ce qu'on a appelé les réseaux sociaux. Et je pense que l'université, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, monsieur le recteur, doivent jouer un rôle très très important pour préparer nos enfants, nos collègues à savoir résister à ces réseaux sociaux. Alors évidemment, la rumeur a existé tout le temps, hein. La Révolution française s'est aussi nourrie des libelles qui étaient imprimées à l'étranger et qui étaient distribuées sous le manteau pour raconter des horreurs sur Marie-Antoinette et les dérèglements de la cour. Mais donc, la rumeur a toujours existé. Mais cette amplification extraordinaire qu'ont fait les réseaux sociaux, cette multiplication de la capacité d'anonymisation de l'opinion et cette amplification en ont fait un phénomène qui est un phénomène ancien, mais qui a pris une résonance nouvelle. Et je pense que c'est notre rôle d'essayer de faire comprendre à nos élèves que c'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que c'est dans le réseau social, c'est pas parce que, etc., que c'est une opinion qui est valable et qu'il faut passer chacune des informations avec les règles héritées de Socrate, hein, qui sont la vérification des faits, le fait de savoir si cette information est utile, si cette information apporte quelque chose, si cette information est vérifiable, si cette information est positive ou négative. Et je pense que le rôle d'enseignant et le rôle de l'université, de l'enseignement, pour la création d'une vraie citoyenneté et d'une citoyenneté adaptée aux défis modernes du numérique, puisque c'est le thème de ce colloque, mais aussi aux défis modernes de la société, où l'information vraie et certifiée a peu de valeur par rapport à la rumeur, où on voit un vice-président des États-Unis créationniste et balayer d'un revers de main les théories de Darwin pour dire que c'est l'homme, que Dieu a été créé par l'homme. Vous voyez ce lapsus, alors que, évidemment, c'est l'homme qui a créé Dieu. Tout le monde le sait, c'est écrit sur mon papier. Le fait que la parole du sachant est à peu près la même que la parole de dernier qui a parlé, et comme le dernier qui a parlé et qui a une opinion est plus nombreux que le sachant, évidemment, notre parole est noyée dans le flux. Apprendre à nos étudiants, à nos élèves, à démêler le vrai du faux, à passer l'information sur le fameux rasoir, tout ça, c'est notre rôle, et c'est pour ça que ce colloque existe, et je vous remercie d'être ici. Merci beaucoup.